Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
What time is it?
Got gun, Hulk left slot.
Dixie left, Key left.
Mercedes, wide chip, Ricky.
Bieber left, 75, Katie, Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 643 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL. Et aujourd'hui, comme chaque semaine ou presque depuis le début de la saison, je suis avec Victor Roulier. Salut Victor.
Et bonjour Raoul, bonjour à tous.
De bonne humeur Victor, tu es prêt à entrer dans cette semaine 5, avec la bonne humeur?
Et oui, la première semaine incomplète de la saison, hein, puisque nous n'aurons que 28 équipes sur le terrain, mais... Oui, évidemment, toujours enthousiaste de voir ces semaines se dérouler, même si ça va trop vite.
Se dérouler et ne pas forcément se ressembler. On va pouvoir parler, Victor, aujourd'hui, de notre grand débat qui est les New York Giants. C'est la grande descente aux enfers pour eux. On va faire le point sur cette équipe depuis le début de saison. On mettra un coup de projecteur sur l'affiche de la semaine entre les Dallas Cowboys et les San Francisco 49ers. On enchaînera avec tous nos pronos et les cotes. Victor, est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt.
Alors, c'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Victor, il y a le feu dans la Maison Bleue. Les New York Giants n'ont qu'une seule victoire en 3 matchs et c'est une victoire plutôt laborieuse face aux Cardinals. Ils ont inscrit que 11,5 points par match en moyenne, c'est le pire total de la ligue. Et ils ont quelques titulaires qui commencent à se blesser un peu. Alors Saquon Barkley et Andrew Thomas sont questionnables, mais bon, on verra ce que ça donne. John Michael Schmitz, le centre aussi. Évidemment, ils sont derniers d'une division très relevée, la NFC Est. Qu'est-ce qu'il se passe, Victor, avec cette équipe des New York Giants qui jouait pourtant les playoffs l'an dernier? Déjà, première question, est-ce que c'était un feu de paille en 2022 ou alors est-ce que on est sur un accident de parcours en 2023? De quel côté se situe le curseur?
Je pense un peu des deux et c'est la beauté de la NFL, c'est-à-dire que la NFL c'est 16 matchs, hein, c'est pas 82 ou 162 comme d'autres ligues. Donc t'as des tendances qui vont se dégager mais qui sont pas forcément de tendances durables et parfois on se dit bah on a fait une bonne saison, on s'est renforcé, donc on va faire une saison encore meilleure et c'est pas toujours le cas. Je pense que les Giants, l'année dernière, ont été un peu au-dessus de leur niveau en gagnant beaucoup de matchs par très peu d'écart, parce qu'à part les Vikings, personne gagnait autant de matchs de moins d'un touchdown. À l'inverse, cette année, ils sont largement en dessous de leur potentiel. Mais aussi parce qu'il y a des carences qui n'ont pas été adressées et qui sont terribles.
Alors ces carences, parlons-en. Peut-être la ligne offensive a l'air d'être le premier point un peu prédominant. Daniel Jones a déjà mangé 22 sacks. Alors je veux bien que ce ne soit pas un quarterback élite, mais là, qu'est-ce qu'il peut faire de plus ?
Ah bah sur le match des Seahawks, quand même, c'est assez difficile. Hein. Je disais sur Twitter, mais quand tu te prends 300 kilos de viande, toutes tes actions, à un moment, c'est difficile de rester lucide. Évidemment, on ne peut que commencer par la ligne offensive. Parce que la ligne offensive, c'est quoi ? Il y a une certitude, c'est le tackle gauche, c'est Andrew Thomas, il est blessé. Derrière, on a des gardes qui ne sont toujours pas au niveau, et c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment adressé à l'intersaison. On a un centre rookie qui prend le bouillon et qui en plus s'est blessé. Mais bon, à un moment, un rookie, tu dois t'attendre aussi à ce que potentiellement il prenne le bouillon sur ses premiers matchs. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il aura une mauvaise carrière ou quoi. Et quand même, l'illustration de... On a essayé de renforcer la ligne, mais ça ne marche pas, c'est Evan Neal. Parce que Evan Neal, c'est un top 10 de draft. C'est un joueur... Qui faisait débat hein, avant la draft, parce que globalement, il y avait beaucoup de physique, mais beaucoup à travailler sur la technique. Et malheureusement, la progression technique, elle est absolument inexistante. Donc le problème, c'est que le physique, si tu n'as ni QI football, ni technique, bah, t'es juste un frigidaire. Et à un moment, les athlètes en NFL, ils peuvent contourner même un frigidaire. Donc globalement, Neal, il incarne un peu cette absence totale de performance de la ligne offensive. Et quand bien même tu as rajouté des cibles, et quand bien même tu as un quarterback qui n'est pas élite, qui n'est pas incroyable, mais qui a montré l'année dernière qu'il pouvait limiter la casse, à un moment, si ta ligne ne répond pas, c'est toute l'attaque qui part en lambeau. Et là, c'est ce qui arrive aujourd'hui, parce que globalement, toute leur première mi-temps, c'est 0 points ou 3 points marqués. Enfin, tu peux pas. Même si tu es... en dessous du niveau moyen, tu peux pas être à ce niveau-là.
Forcément, une mauvaise ligne offensive, ça ne facilite pas la tâche d'un quarterback qui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, n'est pas le haut du panier de ce qui peut se faire en NFL, malheureusement. Aujourd'hui, c'est 2 touchdowns, 6 interceptions. Il a l'air un peu limité vu l'ampleur de la tâche qu'il attend, Victor.
En fait, moi, je suis, si tu veux, sur Daniel Jones... Je pense qu'il n'a pas de niveau, j'ai toujours dit depuis des années, quitte à me faire qualifier de hater. Mais la réalité, c'est que Daniel Jones, sa meilleure saison, c'est quoi ? C'est 24 touchdowns en tant que rookie, et depuis 2019, sa meilleure saison, c'est 15 touchdowns. Je veux dire, évidemment, il n'y a pas que la production statistique brute, mais la réalité, c'est qu'il n'a pas été bon. L'année dernière, il y avait une vraie progression, parce qu'il a fait beaucoup avec très peu. Et il a fait disparaître des pertes de balles, ce qui était quand même son gros problème en NFL. Mais être, entre guillemets, sauver les meubles et porter une équipe, c'est pas la même chose, si tu veux. Être Andy Dalton ou être Patrick Mahomes, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais Andy Dalton dans le sens où, à l'époque des Bengals, ils allaient en playoff tous les ans, presque oui. Malgré Dalton. Enfin, il était correct, mais pas incroyable. Oui. Donc voilà, il y a une différence entre se laisser porter et porter les autres. Et je pense que Jones n'est pas forcément capable de porter les autres. Après, encore une fois, est-ce que tu peux vraiment juger sur ce début de saison quand il se prend pain sur pain sur pain sur pain ? Enfin, il y a un moment, forcément, t'es obligé de débrancher la tête. Et alors, c'est vrai qu'il a lancé des interceptions contre les Seahawks, un peu caractéristique du Daniel Jones 2020-2021. Mais bon, encore une fois, là, j'ai du mal à le considérer comme coupable de ce début de saison, tellement autour de lui, ça s'effondre.
Alors, passons peut-être de l'autre côté du ballon. Il y a quand même des gros problèmes. La défense autorise 30,5 points par match en moyenne. De ton propre aveu, quand on a préparé cette émission, tu me disais que c'est désorganisé. Côté défensif, qu'est-ce que tu entends par là ?
Bah écoute, en fait, je disais tout à l'heure, il y a des facteurs explicables, non explicables. L'attaque, c'est explicable. La défense, c'est inexplicable. Parce que l'année dernière, il y avait un groupe soudé qui jouait ensemble et qui était top 5 de la ligue sur la qualité des plaquages. sur les plaquages manqués. Et ça, on le sait, hein. Ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise défense, c'est réussir ses plaquages. Là, cette année, et en plus, ils ont en coordinateur défensif Martindale, qui est quand même un top 5 coordinateur défensif cette année, on a les mêmes joueurs, plus du renfort. Et pourtant, les schémas ne sont pas suivis, les erreurs de communication sont partout, et ils sont dans les 5 dernières équipes en termes de plaquage. C'est-à-dire que c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Ton gain de 5 yards, il devient 12 yards, parce que tu as loupé le plaquage. Et vraiment, alors, oui, on a notamment au poste de cornerback beaucoup de jeunes joueurs et qui prennent parfois un peu le bouillon, bon, tu peux l'expliquer. Mais même cette ligne défensive qui est censée être quand même le moteur de cette défense, Thibodeau, bon, il a réussi 2 sacks là contre les remplaçants des Seahawks. C'est bien, ça va peut-être te remettre en confiance, mais ça reste un fantôme depuis le début de la saison. Ojulari, c'est pas la progression qu'on en attendait. Okereke, bon, ça ressemble de plus en plus à une fausse bonne idée. Et même des leaders de l'année dernière, comme McKinney, le safety, que j'adore, hein, j'ai même le maillot, c'est vous dire. Là, cette année, pour l'instant, il passe à côté de sa saison. Donc, c'est très compliqué parce que là, ça fait vraiment partie des effondrements. C'est purement dans la tête. C'est un peu comme on parlait des Broncos la semaine dernière. Le groupe, il est bon. C'est le groupe qui avait été bon l'année dernière, mais juste, ça ne marche pas.
Alors, tu as mentionné Martindale, le coordinateur défensif. Est-ce que le coaching staff, de manière globale, et j'ai l'impression qu'on en revient toujours un peu à ça, on avait dit ça aussi de Denver la semaine dernière, est-ce que le coaching staff doit remettre de l'ordre là-dedans ou alors le problème vient de là aussi?
Bah écoute, Brian Daboll, tu sais, c'est un personnage qui a eu une carrière un peu contrariée parce qu'on se souvient de lui en tant que coordinateur offensif des Bills. Mais avant ça, il a échoué aux Chiefs en 2012, il a échoué aux Dolphins en 2011, il a échoué aux Browns en 2009-2010. Donc c'est quelqu'un qui sait faire face à l'adversité. Mais on va dire qu'avoir une mauvaise saison en coordinateur ou en coach principal, forcément coach principal, t'es plus dans la lumière.
Bah oui.
Et là, oui, il va falloir qu'il remobilise ses troupes. Il est censé avoir quasiment le meilleur duo de coordinateur de la ligue avec Martindale et Kafka. À eux trois, ils doivent trouver des solutions. Là, tu vois, autant j'étais sceptique peut-être sur les Broncos, là, au niveau de Giants, pour moi, c'est un coaching staff qui est censé être énorme et ils doivent trouver des solutions. Si Daboll est vraiment perdu, et on l'a vu, il y a des moments de frustration. On a cette vidéo où il jette quasiment sa tablette au nez de Daniel Jones, où tu sens qu'il n'en peut plus. Tu ne peux pas montrer ça, en fait. Tu ne peux pas montrer ça quand tu es coach principal. Donc, il va falloir se remettre à l'endroit parce que lui aussi, il pourrait... Un an après avoir été coach de l'année, il pourrait être la victime de cette mauvaise saison. Hein. On rappelle que Matt Nagy a été coach de l'année, hein, donc tout le monde peut être. Croyez en vos rêves.
Bien sûr, rêvez plus grand. Quand on a préparé l'émission, tu as mentionné le kicker. Je te trouve un peu dur, non?
Non, mais c'était un peu, alors, pour la blague.
Je redonne la stat, hein. Il a manqué 2 field goals sur le premier match. Mais bon, ils avaient pris 40-0, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Depuis, il est à 100%, donc tu me trollais juste.
Oui, non, mais dans le sens où je te disais, le problème des Giants, c'est l'attaque, la défense, kicker, le coaching. À part ça, tout va bien.
Oui. il reste le punter, monsieur.
Ce qui reste, Jamie Gillan qui fait le boulot en tant que punter. Mais vrai que non, mais c'est vrai que la première semaine a un peu marqué au niveau de Gano, mais en soi, ça reste un bon kicker. Mais encore une fois, même les équipes spéciales, tu vois, et c'était aussi pour illustrer ça. Même les équipes spéciales semblent, moins saillantes qu'elles ont pu l'être sur les années d'avant. Tu vois des erreurs qui n'arrivaient pas. Et du coup, c'est ça qui est frustrant, c'est que t'as un jeune coaching staff, t'as un jeune effectif, tu t'attends à la progression. Bon, si ça stagne, tu te dis, je vais faire un peu la gueule, mais là, c'est carrément une régression totale, et ça, c'est terrible.
Je suis en train de chercher, ils sont très mauvais aussi en moyenne de yards parcourus sur les punts, les Giants. Ouais, ouais. Donc, même ça ne va pas.
C'est terrible.
Effectivement, voilà, écoutez, amis fans des Giants, aujourd'hui l'avenir est un peu sombre du côté de la grosse pomme, mais il y a quand même dans cet effectif de quoi s'améliorer. Bon, là, on va faire une croix sur la fin de saison, hein, je pense que au vu de ce qui a été affiché, de toute façon la division, on oublie. Et puis, une wildcard en NFC, ça me paraît compliqué. Non, là, certaines ont déjà montré.
Là, il faut juste sauver les meubles et repartir, on va dire, dans une bonne dynamique pour la saison prochaine. Mais en fait, il y a rien qui les aide parce qu'on en a suffisamment parlé dans des pastilles. On sait que la NFC Est, cette année, c'est compliqué parce que tu affrontes, par définition, les équipes d'NFC Est. Et en plus, tu affrontes les équipes d'AFC Est. Ouais, donc là, ouais. tu vas te prendre les Dolphins et les Bills coup sur coup dans la tronche. Ça va être compliqué.
Ah oui, c'est les Bills la semaine d'après, oui, t'as raison.
Giants, Dolphins, que vous retrouvez sur M6, n'oubliez pas, venez nous voir sur Sixplay.
Bien sûr, on va parler de tout ça. Mais oui, donc ils jouent cette semaine les Dolphins. Et puis la suite du calendrier, bon bah Jets. Après, il y a Jets, Riders. Ça, c'est abordable. Et puis après, tu remanges Cowboys une fois. Il y aura encore
Les Eagles deux
Eagles,
fois.
D'ici la fin de l'année, deux fois. Ouais, bon, bref. Allez, merci en tout cas pour eux. On va passer à des choses plus réjouissantes dans l'affiche de la semaine après le jingle. Top flight, OD, 1, 2, 3, top flight. Il y a un gros match qui nous attend dans la nuit de dimanche à lundi entre Dallas et San Francisco, Victor. San Francisco qui est invaincu, qui semble très très complet. Les Cowboys, eux, ont eu un petit accident de parcours face aux Cardinals, mais ils ont une très belle équipe aussi. Déjà, je voudrais qu'on pose les forces en présence pour toi du côté de Dallas, puis du côté de San Francisco. Enfin, tu fais dans l'ordre que tu veux. Quelle est l'escouade la plus redoutable, on va dire, parce que la meilleure, c'est un peu subjectif, mais l'escouade la plus forte peut-être, entre attaque et défense, sur les deux équipes, par quoi tu veux commencer?
Bah écoute, j'irai sur les Cowboys,
allez.
Où je pense que la défense aujourd'hui est le moteur de cette équipe, même après la blessure de Diggs, et je vais nuancer tout de suite, je ne suis pas en train de dire que l'attaque est mauvaise, mais à part contre les Cardinals, l'attaque elle n'a pas été testée. Ils n'ont pas eu besoin d'en faire plus parce que la défense était tellement dominante, rapportait tellement de points, etc., etc., que tu te contentais du strict minimum et c'était bien. Quand la défense a dû sortir du bois contre les Cardinals, ça n'a pas marché. Alors, ce n'est qu'un match, ça peut être un accident, mais c'est sûr qu'il va falloir retrouver un rythme offensivement. Défensivement, aujourd'hui, cette équipe elle est excellente et évidemment menée par Micah Parsons, qui est un des deux meilleurs défenseurs de la ligue. Aujourd'hui avec TJ Watt, mais elle est aussi menée par tout un tas de joueurs qui vont bien. Gilmore et Van Der Esch, qui sont des vétérans, bah, ils ont l'air dans une forme qu'on n'a pas vue depuis quelques années. Le jeune Odigizua, ça marche très bien en defensive tackle. Et en fait, tout ce groupe, même Blend, du coup, qui se retrouve un peu exposé suite à la blessure de Diggs, bah, il a su répondre à ses détracteurs lors du dernier match. Donc je trouve quand même que c'est la locomotive de cette équipe, c'est qu'aujourd'hui, t'affrontes une défense qui a trouvé le juste équilibre entre agressif et en même temps éviter de concéder des gros jeux.
Alors est-ce que on va être force contre force avec pour toi l'attaque de San Francisco qui est le moteur de cette équipe ou pareil, c'est plutôt la défense qui porte les Niners?
Alors là... je sais pas, le point fort de cette équipe, c'est l'équipe dans son ancienne.
Bah ouais, c'est ça le problème.
Dans son entièreté. Non, je dirais quand même. Alors, partons sur la défense quand même, parce que. Comment dirais-je, l'ajout d'Hargreaves a été vraiment la dernière pierre dans le clou. Enfin, le dernier clou dans le cercueil des adversaires, parce que quand t'affrontes Hargreaves, Armstead, Bosa, Warner, Greenlow, enfin. Il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Ce front seven, il y a tellement de talent, c'est absolument incroyable. Et moi, j'avais une petite, un petit doute sur le dernier rideau, on va dire. Mais écoute, pour l'instant, Ufanga confirme, Gibson tient la maison, Ward est à son niveau. Bon, il manque toujours un cornerback numéro 2, à mon sens, mais tu peux jamais avoir 11 All-Stars dans une défense. À un moment, c'est bon, quoi. Mais cette défense, on voit pas vraiment où est la faille. Et pour le coup, je disais, attaque des Cowboys, ça n'a pas été testé. Bah, là, elle va être testée.
Oui, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que du coup, les Niners et les Cowboys, qui ont quand même deux belles armadas offensives dans leur rang, vont rencontrer une vraie opposition. Et c'est là où ce match, je pense, peut être un peu un révélateur. pour une équipe comme pour l'autre. J'ai regardé, il y a quelques bobos dans la ligne offensive de Dallas. Je les avais sous les yeux. Ouais, il y a Zach Martin qui est questionable. On ne sait pas encore à l'heure où on enregistre s'il est là. Tyron Smith devrait être dispo pour le match. Est-ce que ça peut être un peu embêtant si la ligne se déplume avant le match, Victor?
Ah oui, parce que depuis le début de la saison, il y a eu la blessure de Tyron Smith, de Bayadash, de Martin. Donc finalement, il y en a quasiment 4 sur 5 qui jouent. Même s'ils sont sur le terrain, ils sont probablement diminués. Donc c'est sûr que c'est un problème. Et on l'a vu contre les Cardinals. Hein, ce qui avait fait mal, c'était justement la sous-performance de cette ligne offensive. Et c'est là où Dallas va devoir prouver à un moment « next man up », comme disent les Américains. On a un joueur absent, c'est le joueur suivant qui va sur le terrain et il va falloir performer parce que malgré tout, tu as les armes. Hein. Tu as Dak Prescott qui est quand même un très bon quarterback, tu as Pollard qui est un très bon running back. Au niveau des receveurs, tu as Lamb, Gallup et Cooks. Lamb est incroyable. Les deux autres sont pas non plus des numéros 2 de gala, mais ça reste des très bons joueurs.
Oui, mais eux deux, ça fait un numéro 2.
Ouais, c'est ça. Et voilà, donc il y a un moment, en effet, si tu commences à prendre les vagues, ça va faire mal. Mais j'ai envie de te dire que c'est la même chose de l'autre côté, parce que je disais, le point fort des Niners, c'est l'équipe dans son entièreté. Moi, il y a quand même quelque chose où je persiste et signe, et je pense qu'ils n'ont pas été beaucoup testés là-dessus pour l'instant cette saison. Je continue à penser que s'il y a un talon d'Achille dans cette équipe, c'est la ligne offensive. Mis à part Trent Williams, hein, qui est le meilleur left tackle de la ligue, hein, ça je pense qu'on est tous d'accord. Mais tout cette ribambelle de joueurs, Banks, Brendel, Burford, c'est à la frontière entre le remplaçant et titulaire. Et je pense que face à des gros joueurs comme Micah Parsons qui, à mon avis, va attaquer par la droite, hein, il va pas s'amuser à aller rentrer dans le mur Trent Williams. Attention, hein. Parce qu'il y a un monde où il nous fait une Hassan Reddick et il va faire 4 sacs sur la première mi-temps. Donc attention, parce que le reste, évidemment, Purdy continue à me faire mentir chaque semaine en étant excellent, donc tant mieux pour lui. Christian McCaffrey est au niveau d'un MVP. George Kittle, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, enfin, bon, c'est des super joueurs, je vous apprends rien. Mais c'est vraiment cette ligne qui est un gros problème aujourd'hui. Donc on espère que ça va aller mieux, parce que clairement, ça va être le premier gros test. Si la ligne répond, là on pourra dire que c'est une équipe parfaite.
Et donc la ligne des deux côtés, hein, qu'il va falloir surveiller. C'est vrai que tu mentionnes Dallas qui est quand même à 14 sacs depuis le début de la saison. Christian McCaffrey, pour ta gouverne, il pourrait égaler le record d'Emmitt Smith avec 14 matchs consécutifs en marquant un touchdown. Je vois pas dans quel monde il n'y arrive pas. On va voir. Mais non, moi le dernier point que je voulais voir, c'est que les deux équipes n'ont perdu qu'une seule balle. Il n'y a eu qu'un seul turnover depuis le début de la saison pour les deux. Je crois que Seattle est la seule autre équipe dans ce cas-là. Et c'est peut-être là-dessus que ça va se jouer. Et tu vois, on se redisait, Dak Prescott peut être un peu mis sous pression si la ligne le lâche. Dak Prescott, ça n'a pas toujours été le quarterback le plus safe, sûr de la ligue. Est-ce que ça peut arriver de là, le petit grain de sable qui peut enrayer la machine Cowboys? Moi, je vais être tout à fait franc avec toi. Je pronostique les 49ers parce que dans ma tête, il y a un scénario qui est tout à fait viable de Dak Prescott fait n'importe quoi. Enfin, se retrouve à devoir faire beaucoup et donc finit par craquer et fait n'importe quoi sur ce match.
Alors, Dak Prescott, c'est vrai qu'il y a toujours un ou deux matchs dans la saison où il déconnecte. Mais paradoxalement, Dak Prescott, il déconnecte souvent dans des matchs qu'on n'attend pas. Et dans les grands matchs, j'ai toujours trouvé qu'il était au niveau personnellement. Je continue à penser que c'est un top 10 quarterback. Je sais qu'on est de moins en moins, mais... moi, je pense vraiment que voilà, c'est l'état des lignes qui va décider de tout. En effet, c'est un peu point tarte à la crème, mais on est obligé de dire, les pertes de balles, ça va être décisif, ça c'est sûr. Il va falloir faire attention à ça. Mais Purdy, pareil. Purdy, aujourd'hui, il s'est un peu habitué à avoir 10 ans pour lancer et des receveurs qui ont 10 yards de séparation. On a vu l'année dernière que quand il y avait un gros pass rush, parfois ça se passait mal. là encore, ça va être un super test pour lui. Parce que s'il répond à cette pression et qu'il arrive à jouer autour, eh ben génial. Donc non, ça va être un décisif pour les deux. Mais il se peut très bien, pour suivre un peu ta comparaison, que ça se résume à le meilleur quarterback va gagner ce match. Et qui est le meilleur quarterback? Ça, réponse, réponse à la fin. Oh, oui. Sur ce match, ça peut tout à fait être ta réponse.
Deux quarterbacks ont été sélectionnés. Alors, Brock Purdy, évidemment, bas, mais je crois que c'est un quatrième tour, Dak Prescott, non?
C'est un quatrième tour, je crois bien. Parce que
c'est rigolo, quand même.
Les Cowboys sont shippés à d'autres équipes. Ça fait partie de ces joueurs. Tu comprends toujours pas comment ils sont descendus autant.
Ouais. C'est pour ça que la draft et ses mystères sont des choses dans lesquelles je n'ose m'aventurer et je laisse les experts comme toi en parler. Voilà pour notre affiche de la semaine. Tu pronostiques qui ?
Niners aussi.
Niners, c'est parti pour nous deux. Voilà pour l'affiche de la semaine. On passe à tous les pronos de la semaine 5.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir. And we're gonna work on three! One, two, three, work!
Wouhou, deux belles semaines consécutives en prono, je remonte. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je me suis jinxé pour cette semaine, c'est sûr.
Ça, c'est
non,
sûr.
Mais semaine dernière, on a été 3 à marquer 13 points, en l'occurrence Lucas, toi et moi. Alain, Greg et Raphaël ont tous les 3 fait 11 de leur côté. Donc, au classement, ça se rééquilibre un tout petit peu. On a Lucas qui est premier avec 47 points. Bon, lui, il y a un gros écart puisqu'il a 5 points d'avance sur Alain qui est deuxième avec 42. Raphaël est troisième avec 41. Je suis quatrième avec 40, Grégory est cinquième avec 39 et tu es à 38. Donc en fait, entre Alain et toi, on est tous les 5 en 5 points d'écart. 4 points d'écart si tu veux exactement. Mais voilà, c'est une course qui s'annonce déjà alléchante et il reste beaucoup de football à jouer d'ici la fin de la saison. On va se lancer dans tous les pronos. D'ailleurs, juste avant de commencer, je suis très triste que personne n'ait remarqué que j'avais casé tous les titres de Taylor Swift. Voilà, ça prouve que vraiment cette artiste
même moi,
est méconnue
par marque
du grand public. Non, mais voilà, méconnue des auditeurs de la NFL pour l'instant. Pour l'instant. On commence dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est ce soir à 2h15 du matin, les Commanders à 2 victoires et 2 défaites qui reçoivent les Bears à 0 victoire et 4 défaites. Cette affiche n'est pas belle du tout sur le papier, mais tant pis. Les Bears qui ont presque fait illusion face à Denver. Washington qui a bien tenu face aux Eagles. Bon, moi je parierai jamais sur les Bears de toute façon, mais voilà, les Commanders m'ont plutôt convaincu la semaine dernière. Qu'en as-tu pensé, toi qui les as observés de près ?
Oui, ils ont été très bons. Samuel a été excellent parce que c'est pas tous les jours que tu vois un quarterback faire une telle prestation en ayant subi 20 pressions quand même.
Oui.
Donc, la ligne offensive est toujours un peu inquiétante, mais là encore, par rapport aux Bears, bon,
oui, il va pas être trop inquiété.
Je veux dire, ils sont au-dessus dans la ligne défensive, au-dessus sur les skills players, au-dessus au niveau du quarterback, au-dessus au niveau des lignes, enfin.
Bon, ils sont au-dessus partout. Ouais. De toute façon, on va tous jouer les Commanders, je pense. Tiens, c'est l'ancienne franchise de Ron Rivera, le coach des Bears, des Commanders en l'occurrence, qui a joué 9 saisons pour les Bears quand il était joueur professionnel. Donc, toujours rigolo, j'imagine.
Grande défense des Bears.
C'est vrai. Dimanche à 15h30, il y a encore un match à Londres, messieurs, dames, avec les Bills de Buffalo qui reçoivent, entre guillemets, les Jaguars. Les Bills qui sont à 3 victoires et une défaite, les Jaguars à 2 victoires et 2 défaites. Il y a des gens qui doutaient des Bills en début d'année. T'es pas content ? Triplé, aurait répondu un grand joueur de football. Josh Allen, en l'occurrence, a sorti un match à 158.3 de rating, sur le rating parfait face aux Dolphins. Oui, les Jaguars sont dans une dynamique moyenne, mais là, on va parler plutôt de ce qu'ont fait les Bills, et je vois pas dans quel monde ils ne continuent pas d'enchaîner sur cette belle trajectoire, on va dire.
Oui, ils sont en pleine confiance. Je dirais que la seule chose qui peut jouer un peu contre eux, c'est que les Jaguars sont déjà à Londres depuis une semaine. Donc physiquement, ils auront moins le jet lag, moins tout ça. Donc, mais on voit malheureusement des limites qui semblent un peu durables au niveau de Jacksonville. Face à des Bills en pleine confiance, normalement, ça devrait le faire.
Il y a 5 heures de décalage horaire entre Miami, où jouaient la semaine dernière les Bills, et Londres. C'est autant qu'entre Los Angeles et Miami, non 4 heures, pardon.
Il y a 3 heures entre la Californie et la côte est, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas beaucoup plus impactant qu'un déplacement côte est côte ouest. Oui, voilà. C'est vrai.
Donc si le seul argument des Jaguars dans ce match-là, c'est on est plus frais parce qu'on est sur place, je ne donne pas cher de leur peau et je pronostique évidemment les Bills. Qu'en est-il pour toi ?
Oui, les Bills aussi.
On se lance dans notre grande série des matchs de 19h dimanche. On commence avec les Texans à 2 victoires et 2 défaites face aux Falcons à 2 victoires et 2 défaites. Une belle amélioration des Texans. Là, les autres en parlaient hier dans le podcast. CJ Stroud est propre, le jeu au sol aide bien, en faisant même des passes de touchdown. Ils perdent peu de ballons, alors que côté Falcons, on rejoue tout de suite après la semaine à Londres. Et là, pour le coup, je pense que le trajet dans ce sens-là, il est peut-être un peu plus dur aussi. Bon, il y a quand même beaucoup de choses qui me font aller en faveur des Texans sur ce match.
Moi aussi, c'est-à-dire que j'ai arrêté de croire aux Falcons qui m'ont coûté trop de points là, dans les pronos. En fait, le problème, c'est que les Falcons, c'est terrible et simple à la fois. C'est que Desmond Ridder, il rêve à rien et qu'il semble vouloir continuer avec lui à tout prix. Alors, il y a toujours la possibilité du match où les Falcons font 250 yards au sol et gagnent le match. Hein. C'est toujours possible, surtout que des Texans... On va attendre avant d'être sûr qu'ils vont performer toutes les semaines. Ce que je trouve assez miraculeux, c'est à quel point CJ Stroud performe avec 5 remplaçants sur la ligne, enfin 4 remplaçants sur la ligne offensive. En tout cas, elle a le vent en poupe, cette équipe. Elle est bien coachée. Il y a un vrai groupe qui est en train de se créer. Donc, clairement, je vais prendre l'équipe qui a l'air la plus saine des deux, entre guillemets, et je vais partir sur les Texans.
Exactement pareil. Lions 3 victoires, 1 défaite. Panthers 0 victoire et 4 défaites. Tiens, c'est marrant, je sais pas, mais les Panthers qui sont la seule autre équipe, comment on dit l'inverse de invaincu, ingagnante, enfin qui n'a pas gagné en tout cas, de cette NFL avec les Bears. Donc c'est vrai que sur le papier, les Bears ont l'air beaucoup moins bons, mais pourtant ces Panthers là, ça marche pas. J'ai un peu du mal à me l'expliquer. Alors que de l'autre côté, les Lions sortent d'une très belle victoire face aux Packers, qu'ils ont eu 10 jours de repos. Bon, ils vont dérouler.
Bah écoute, normalement, il n'y a pas tellement de raisons que ça se passe autrement. Les Panthers, c'est très limité en fait. C'est là où on le voit. Sur le papier, tu te dis, ah la défense, ça peut faire quelque chose. Ah l'attaque, pourquoi pas, ça manque de receveurs, mais on ne sait jamais. En réalité, ça prend pas tellement. C'est la première année de leur nouveau coach. Et face à des Lions qui sont vraiment... Alors, eux, en année 2, même en année 3 presque, en totale confiance, normalement, Lions, oui.
Lions pour tout le monde. Colts, 2 victoires, 2 défaites face aux Titans, 2 victoires, 2 défaites. Tu vois, on est déjà qu'en semaine 5 et ces deux équipes-là me semblent condamnées au ventre mou inintéressant de la NFL. En fait, c'est triste, il n'y en a déjà aucune des deux qui m'inspire. J'avoue que j'ai pas fait la pile ou face, mais j'ai juste regardé qui jouait à domicile. Et bon, comme c'est... Non, en plus, même pas, je prends les Titans parce que... Je sais même pas vous dire pourquoi j'ai pris les Titans, mais en fait, bon.
Bah en fait, sur le papier, les Titans, c'est supérieur en termes de jeu de course, en termes de défense, etc. Le seul problème des Titans, c'est qu'ils nous font les Titans depuis 5 ans. C'est-à-dire le match où tu dis, oh là, ils sont au fond du trou, ils n'y arriveront pas, ils te foutent un 31-10 et ils gagnent de manière magistrale. Et au moment où tu vas dire, ah là, ils sont vraiment revenus bien, je les vois bien gagner, ils vont se prendre un 21-3 où ta nuit va lancer 5 interceptions. Donc en fait, cette équipe des Titans, tu sais jamais quoi faire. Et les Colts, écoute, je trouve qu'il y a une progression. Ils n'ont pas baissé la tête à 23-0 contre les Rams. Ils ont même allé jusqu'en prolongation. Alors certes, ils n'ont pas gagné, mais tu ne peux pas gagner tous les matchs. Anthony Richardson semble un peu en avance sur le projet qu'il était, puisqu'il est extrêmement jeune, hein, rappelons-le, par rapport aux autres quarterbacks.
Oui.
Ça va être en tout cas un match intriguant, mais à l'expérience, je vais mettre les Titans.
C'est peut-être indirect, enfin, c'est peut-être ce qui a joué dans ma tête sans que je m'en rende compte, mais ouais, je vais prendre les Titans aussi. Dolphins 3 victoires 1 défaite face aux Giants à 1 victoire et 3 défaites. Le match qu'on va voir sur 6 plays cette semaine, messieurs, dames, pardon, avec Victor qui sera en plateau avec Lucas Vola. Victor, vends-nous cette affiche incroyable que tu vas commenter.
Bah écoute, c'est le Redemption Game, le match de la rédemption pour les Giants qui, devant vos yeux ébahis sur Six Play, vont opérer une victoire historique.
Non. Non, soit crédible.
C'est, aujourd'hui, les favoris sur le papier, c'est Dolphins, c'est assez clair. Après, ça reste la NFL, hein. Cowboys Cardinals, on en avait presque rigolé de mettre les Cardinals vainqueurs. Oui. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Donc, mais c'est sûr que là, les Giants, en fait, et c'est aussi pour ça que le débat tombait à pic, j'ai l'impression que c'est... Là, on ne parle pas de victoire ou de défaite, mais il faut une vraie prestation de football, quoi. Tu peux pas donner cette bouillie de football que tu as donnée ces dernières semaines. Malgré tout, on va avoir Dolphins revanchard après la défaite face aux Bills.
C'est ça.
Et je pense que l'amas de talent devrait suffire à gagner ce match.
C'est ça, les Dolphins, ils ont quand même pris un gros mur face aux Bills, alors qu'ils étaient, ils sont sans doute vus très beaux parce qu'ils ont raison de l'être, mais voilà, je pense que là, il va falloir remettre la machine en marche, réavancer et mettre, pourquoi pas, une grosse fessée aux Giants. Je prends évidemment les Dolphins. Les Patriots reçoivent les Saints. Les Patriots à une victoire, trois défaites. Les Saints à deux victoires et deux défaites. Les Patriots qui sont une équipe difficile à cerner, on va dire, depuis ce début de saison. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le débat sur... je sais qu'il y a une rumeur lancinante dans la rédaction du podcast qui veut qu'on fasse bientôt le procès, peut-être, de Bill Belichick. Mais ce ne sera pas dans ce podcast-là. On va regarder ce qui nous attend sur ce match-là. Très simplement, moi, je vois que Derek Carr va jouer. À partir de là, je pense que les Saints ont tout ce qu'il faut... autour de lui pour aller remporter la victoire.
Bah, s'ils font pas la même prestation que la semaine dernière, parce que là, ils ont touché le fond, clairement, la semaine dernière. Après, est-ce que tu peux en vouloir à Derek Carr, qui s'est littéralement fait exploser l'épaule la semaine d'avant et qui revient ? Bon, difficile, mais par contre, le coaching des Saints, c'est un vrai problème. Niveau des Patriots, en fait, le truc, c'est qu'il y a toujours des believers. C'est vrai qu'on en parlait dans la pastille d'avant-saison, Grégory qui disait, en gros, c'est Belichick, c'est tout ça, ils vont forcément gagner leur match. J'ai l'impression qu'on est arrivé au moment où il n'y a juste plus assez de talent, même bien coaché, pour gagner des matchs. Et l'humiliation face aux Cowboys, c'était un peu, là encore, assez symptomatique. Les deux peuvent gagner le match, mais là encore, effectif plus talentueux au niveau de New Orleans, je vais donner à New Orleans.
On enchaîne avec une belle affiche d'AFC Nord, comme on les aime, entre les Steelers à deux victoires et deux défaites, qui reçoivent les Ravens à trois victoires et une défaite. Lamar Jackson qui sort d'un match presque historique pour lui. C'est un pourcentage de complétion de passes à 78,9%. C'est quand même assez stylé. Deux touchdowns à la passe, deux touchdowns à la course. Il est en train de retrouver un gros niveau. Ils ont écrasé les Browns, dont on avait vendu la défense assez allègrement. Et là, il affronte encore une grosse défense, mais le problème des Steelers, c'est toujours le même. On ne va pas y passer 10 minutes à chaque fois. L'attaque n'avancera pas. Et là-dessus, tu ne peux pas te permettre, face à une équipe des Ravens aussi complète en attaque.
Oui, l'attaque des Steelers, c'est désespérante. Enfin, je veux dire, et en plus, maintenant, tu as même Pickett qui s'est blessé, etc. Mais cette attaque de Matt Canada, plus personne n'y croit. Ils ont beau avoir une bonne défense, je suis prêt à miser mon PEL sur les Ravens. Et c'est pour ça que les Steelers vont évidemment gagner.
Probablement. Derrière Pickett, c'est, je le sais,
c'est Mitch.
Une seconde, c'est notre ami Mitch Trubisky, bien sûr.
Mais oui.
Que personne n'a envie de voir sur un terrain de football, hein, soyons tout à fait honnêtes. Donc bon, on verra si Pickett est là, mais ça ne changera de toute façon pas grand chose, je le crains. Et je vais également prendre les Ravens. Autre équipe d'AFC Nord, les Bengals à une victoire et trois défaites, qui reçoivent les Cardinals à une victoire et trois défaites. Et j'ai l'impression que toutes les semaines on dit, bon bah ça va, celui-ci ils vont réussir à le gagner, les Bengals. Mais bon, les Cardinals, ils ont déjà fait une petite blague face aux Cowboys. Alors, et pourquoi pas, Victor? Bon, j'y crois pas une seconde, mais pourquoi pas?
Bah écoute, moi je trouve qu'il y a largement un monde. Parce que les Bengals, ils ont plus de talent, ça c'est évident. Mais ils sont où, les Bengals, aujourd'hui? Enfin, sur le terrain, Burrow, Chase et compagnie, c'est dans les 5 pires attaques de la Ligue. Et plus un bureau diminué, plus du coup un environnement qui est quand même assez... Là, tout le monde commence à les enterrer, alors qu'avant le début de la saison, ils étaient censés être au Super Bowl. Et d'autre côté, t'as les Cardinals qui sont vaillants, qui font que des bons matchs, qui perdent pas tant que ça. qui ont même fait l'upset face aux Cowboys. Enfin, globalement, il y a beaucoup de choses positives. Je vais quand même aller sur les Bengals, notamment par prudence, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pronos Bengals dans la rédaction, et je vais être honnête, j'ai pas envie de perdre un point là-dessus. Mais honnêtement, je me suis posé la question de jouer Cardinals.
Je me la suis pas posée, mais bon, je vais arrêter d'être convaincu que les Bengals vont gagner tous leurs matchs et que les Cardinals vont tous les perdre, parce que, comme tu dis, on n'est pas à l'abri. Le match de 22h05 dimanche, ce sera entre les Rams à 2 victoires et 2 défaites et les Eagles à 4 victoires et 0 défaite. Vous n'avez pas envie de perdre, Victor, c'est ça en fait, les Eagles ne veulent pas perdre cette année.
Bah écoute, moi ça c'est marrant parce que c'est un débat, je vois beaucoup de gens dire, et à raison, hein, que les Eagles gagnent, mais ils sont moins impressionnants que les Cowboys, que les Niners, etc. Moi je sais pas, je trouve qu'à la fin du bal, il y a deux types d'équipes, celles qui gagnent et celles qui perdent. Là aujourd'hui, les Eagles sont plutôt dans une bonne dynamique. Malgré tout, attention, hein, parce que là, on disait, un déplacement est-ouest jamais évident à gérer. En plus, face à une équipe des Rams quand même extrêmement bien coachée, qui ne lâche pas de match. Il n'y a pas de match facile, hein, contre les Rams cette année, ça n'existe pas. Et il y a quand même, bah, y a des joueurs, enfin, je veux dire, comment il s'appelle, Stafford aujourd'hui, on l'avait presque mis à la retraite, bah, pour l'instant, c'est quand même très bon. Donc c'est assez intéressant. Malgré tout, je vais aller sur les Eagles parce que je pense que des deux côtés du ballon, il y a un talent qui est supérieur. Mais encore une fois, tu vois, pour moi, c'est typiquement le match piège où tout le monde se dit « Ah, c'est gagné d'avance ». Et attention, parce que ça peut trembler jusqu'au bout.
C'est vrai que tu le dis, les deux défaites, hein, des Rams, à chaque fois c'est 7 points et 3 points, c'est un touchdown ou moins, face aux Niners et face aux Bengals. Il va falloir les surveiller malgré ce qu'on avait dit en avant-saison. Pour l'instant, tout le monde est encore en forme et en santé, donc ils sont encore capables d'aller embêter les Eagles. Je vais quand même choisir Philadelphie. 22h25, les Broncos à une victoire et 3 défaites reçoivent les Jets à une victoire et 3 défaites. Et tu vois, je disais tout à l'heure que l'affiche de jeudi soir elle est pas belle, mais alors celle-ci, wouhou! Encore un match sacrifié sur le talon d'Achille de Aaron Rodgers. Je sais même pas quoi te dire en fait. Les deux sont abyssaux depuis ce début de saison. Les Broncos. Je vais prendre des immenses pincettes, mais comme les Broncos sortent d'une victoire, est-ce que la dynamique, quand bien même cette victoire est très laide face aux Bears, qui sont la pire équipe, est-ce que là, sur ce match-là seulement, c'est eux qui ont la meilleure dynamique des deux équipes?
Ouais, écoute, les Jets n'ont pas été ridicules contre les Chiefs. Après, il y a eu un bon match de Zach Wilson, tout Twitter était en mode non, mais c'est bon, c'est le gars, en fait on s'est trompé pendant 3 ans. Pendant ces 50 matchs où il était nul, c'était pas le même mec. Mais là, en un match, ça y est, on sait qu'on a le gars, il est même meilleur que Mahomes. Calmons-nous. Hein, il a été pas nul pendant excessif, 50 matchs sûr. Et il va être renul pendant 50 matchs, vous inquiétez pas. La défense des Jets reste très bonne. Après, au niveau des Broncos, bah, y a un moment, mené 28-7 par les Bears, ils ont touché le fond et ils auraient pu s'écrouler. Et finalement, ils ont gagné 31-28. Est-ce que c'est pas le genre de victoire qui forge un groupe? Sachant qu'offensivement, ça marche. Hein, les Broncos, c'est plus défensivement, évidemment, que ça a été problématique dans ce début de saison.
Oui, 25 points en moyenne, c'est un des... Bon, c'est pas le plus haut, mais c'est dans le haut du panier, cette année NFL, je crois.
Donc là, j'ai envie d'y croire un peu et je vais jouer les Broncos. Mais c'est sûr que c'est un match qui peut aller dans les deux sens.
Je vais prendre les Broncos au sein... Non. Ah, je sais pas. En fait, sur l'outil de pronostic, j'ai mis les Jets. Tu sais quoi, je vais garder les Jets. Allez, je vais garder les Jets. Je suis un fifou. Ils ont réussi à gagner un match, même avec Zach Wilson cette année. Yeah. Ah, j'hésite quand même. Bon, je me réserve le droit de changer, mais je pense que je vais quand même partir sur les Jets pour ce match-là. L'autre affiche de 22h25, c'est les Vikings du Minnesota, une victoire et 3 défaites face aux Chiefs de Kansas City, 3 victoires et 1 défaite. Bon là, la dynamique est clairement identifiée, les Chiefs sont une bien meilleure équipe, les Vikings, pas une mauvaise équipe. Est-ce que, Tiens, j'aime bien ces débats-là absolument inutiles. Est-ce que les Vikings sont la meilleure équipe à une victoire et trois défaites de la Ligue, Victor?
J'ai été sûr que c'est ta question.
Pour rappel, les autres, c'est Cardinals, Bengals, Broncos, Raiders, Patriots, Giants, Jets.
Bah, ça se joue entre eux et les Bengals. C'est là encore, c'est une équipe un peu difficile à lire. C'est-à-dire que ils sont à 1-3, mais personne, je pense, se dit ah, les Chiefs, ils vont avoir un match facile, tranquille, ils vont rouler sur Minnesota. Tu sais que les Vikings, c'est jamais facile. Tu sais que ça va être un match un peu bizarre où Cousins peut prendre feu et tout. Malgré tout, je vais aller sur Kansas City, évidemment.
Oui.
Mais je sais pas, il y a... En tout cas, les Vikings, c'est jamais à prendre à l'aise.
Ils étaient menés dans le match face aux Panthers.
Oui, ils ont été mauvais la plupart
10-0,
du match.
Menés 10-0,
Ils se sont bien réveillés après, ouais.
Bon, après, faut dire que le premier touchdown, c'est une interception de 99 yards de Sam Franklin. Bon, ça n'arrive pas tous les jours non plus.
Ah, Kirk Cousins, ça lui arrive souvent quand même.
C'est vrai. Donc, les Chiefs, pour tout le monde, hein, bien sûr. Oui. Le Sunday Night Football à 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi, on en a parlé, ce sont les Niners à 4 victoires, 0 défaites qui reçoivent les Cowboys à 3 victoires et 1 défaite. Je crois qu'on a tous les deux pronostiqué les Niners Victor.
Exactement.
Et on finit avec le Monday Night Football entre les Raiders de Las Vegas à 1 victoire et 3 défaites face aux Packers de Green Bay à 2 victoires et 2 défaites. C'est à 2h15 du matin dans la nuit de lundi à mardi. Est-ce que... Non, je vais pas te faire l'affront de te demander si les Raiders sont la pire équipe à 1-3, mais... peut-être pas. Les Packers, oui, qui viennent de prendre une grande claque là, face aux Lions, mais qui ont eu 10 jours de repos. Un début de saison qui est un peu K1K pour cette équipe de Green Bay, parce que tu gagnes d'un point face aux Saints, tu gagnes face aux Bears, bon d'accord, mais tu perds face aux Falcons d'un point, tu prends une... belle fessée face aux Lions. J'ai encore un peu de mal à la cerner. Je crois quand même qu'elle est mieux équipée que ce qu'a montré Las Vegas. En tout cas, sur ce match-là, ça me paraît plutôt évident, le favori.
Évident, non. Pas pour moi. Parce que les Packers, ils ont quand même montré des limites la semaine dernière. Et Las Vegas, ça reste très correct. Disons que ce qui me bloque le plus à Las Vegas, c'est le coaching, en fait. T'as l'impression que le coach a envie de faire perdre l'équipe. Enfin, peut-être qu'il a reçu les instructions, hein, mais faut pas le dire à la NFL, parce qu'il va être content. Mais globalement, oui, je trouve le coaching abyssal, et c'est pour ça que je vais partir sur Green Bay. Mais Green Bay, il va falloir rebondir, parce que la première mi-temps, aux Lions, dans la tête, à mon avis, elle a fait mal.
Ça sera les retrouvailles aussi entre Davante Adams et son ancienne équipe des Packers. On va voir ce que ça va donner de ce côté-là. Bon, à voir, tiens d'ailleurs, qui va jouer le match côté Raiders. Je ne sais pas si on a déjà l'info, mais en tout cas, ce qu'on a vu de notre ami O'Connell, c'était pas...
Et d'ailleurs, toutes mes excuses, hein, parce que je me suis moqué de toi, j'ai même pas répondu à ta question la semaine dernière en disant qu'ils allaient mettre Brian Hoyer, t'as vu? T'as vu comme j'ai un mauvais fond et ça m'est revenu dessus comme un karma. Quoi.
Puni. Mais c'est bien, tu vois. C'est belle humilité de le reconnaître. Bon, on va prendre les Packers.
Oui.
On va prendre les Packers. Voilà qui conclut notre séance des pronos puisque 4 équipes sont au repos cette semaine, à savoir les Browns, les Chargers, les Seahawks et les Buccaneers. On les retrouvera la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve juste après le jingle pour les codes de la semaine. Les codes de la semaine, comme toutes les semaines et comme depuis longtemps sur Touchdown Actu, c'est avec notre partenaire Unibet. Et donc cette semaine, pour les codes, on va faire comme toujours, on en choisit 3 et on fait un premier pari. Puis on en rajoutera 3 un peu YOLO pour faire un beau pari. Alors, Victor, qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine? J'ai regardé un petit peu, il y a des matchs très incertains, mais en même temps... J'ai pas envie de parier, tu vois, par exemple, le Colts Titans, les deux cotes sont assez proches, mais j'ai envie de parier sur aucune de ces deux équipes-là. Est-ce que, alors, je t'en donne un premier, et puis tu me dis ce que t'en penses. Est-ce que les Texans à 1,98, on pourrait pas aller là-dessus?
Je suis d'accord, parce qu'ils ne sont même pas favoris du match et je trouvais que c'était une bête cote. Je suis d'accord avec ça.
Donc, les Texans à 98 face aux Falcons, moi, je trouve que ça se joue. Derrière, j'essaie de regarder. Je vois que les Saints sont à 1,92 face aux Patriots. Pareil, c'est ouais. Une équipe qu'on a pronostiquée.
Oui, oui, je suis d'accord. Allons-y.
1,92. Et enfin, là, j'hésite un peu. J'essaie de le trouver dans les favoris des cotes un peu hautes.
Moi, je trouve qu'il y a quand même des favoris qui me paraissent extrêmement hauts. Genre les Ravens, moi je pense vraiment que les Steelers, ça c'est cata. Et du coup, 1,46, ça me plaît bien.
Mais je la trouve pas. Ah, mais si, elle est là, oui, ok. Hein, oui, ça peut. Après, tu vois, les Bengals, ils sont à 1,54. Et je suis à peu près dans le même mood d'imaginer que les. Bon, remarque, non, peut-être pas. Bon, non, en fait, non, t'as raison. et si je. Ouais, je regarde dans les autres, mais en fait, c'est vrai que tous les autres sont un peu plus bas. Les Commanders, ils sont à 1,36, c'est pas beaucoup.
On n'a pas le droit de.
Non, je sais. Je sais, mais je le disais à titre négatif. D'ailleurs, j'ai réalisé que. Alors, on va être tout à fait transparent, nous on enregistre les mercredis, cette émission que vous entendez le jeudi, mais les codes peuvent changer un peu d'ici là. Alors, pas drastiquement, mais c'est vrai que si le dimanche vous remettez notre séance cote, bon, soyez pas surpris s'il y a des chiffres un tout petit peu différents.
Tu veux dire que tu ne te lèves pas le jeudi à 3h du matin pour enregistrer et dans la foulée uploader
Je suis désolé de faire cette révélation.
Moi, je pensais que tu te levais à 3h du matin, je suis très déçu.
Bah oui, et du coup, je te laisse tout seul à chaque fois attendre désespérément à l'autre bout du fil. Désolé pour ça. Les Ravens à 1,46, ça me va très bien. On va prendre ces trois équipes-là. Donc, je le rappelle, les Texans à 1,98 face aux Falcons, les Saints à 1,92 face aux Patriots et les Ravens à 1,46 face aux Steelers. Ces trois cotes combinées, ça nous fait une cote totale de 5,55. Et donc, pour une mise de 5€, vous avez un gain potentiel de 27,75€. Un bon resto si vous êtes seul. L'autre prono qu'on fait, donc le YOLO, est-ce que du coup on met les Cardinals à 2,22?
Ouais, on met les Cardinals et on met les Cowboys.
Allez, les Cardinals à 2,22 et bah, tu mets les Cowboys, c'est YOLO. Ouais, si, c'est vrai, c'est YOLO. À 2,34, ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo un peu? Moi, j'avais regardé les Rams face aux Eagles à 2,55.
Écoute, tu peux. Après, les Giants, quand t'es dans...
Ah bah, les Giants, c'est à 4,55, ça c'est la gigacote, mais...
Ouais, un peu compliqué. Bah, tu peux jouer les Rams.
Allez. Les Rams à 2,55, c'est YOLO.
Non, mais c'est bien.
Rams à 2,55, c'est YOLO. Et alors, bon, du coup, ça fait un petit YOLO, parce que là, on a pas des cotes excessives, comme ça peut arriver parfois.
Mais il n'y a, temps... a pas de cotes excessives cette semaine, de toute façon. Tu regardes, il y a très peu d'équipes qui sont mal notées.
Il y a seulement deux cotes au-dessus de 3, puisqu'il y a les Giants à 4,55, on l'a dit, et il y a les Panthers à 3,88. Et je n'ai pas envie de miser sur ces deux-là.
Non.
Donc, bon. Donc très bien, alors allons-y, on a rajouté les Cardinals à 2,22, les Rams à 2,55 et les Cowboys à 2,34. Donc si vous faites le total Texans, Saints, Ravens, Cardinals, Rams, Cowboys, ça vous fait 73,52 de cote. Et donc pour une mise de 5€ de départ, vous avez un gain potentiel de 394,81€. C'est une belle somme. Une belle somme que je vous rappelle, il faut miser avec prudence et c'est quoi le mot que je veux ? Parcimonie, bien sûr, ne miser que ce que vous pouvez vous permettre de faire. Et si vous sentez que vous perdez le contrôle sur le pari, n'hésitez pas à vous tourner vers toutes les initiatives mises en place pour vous aider à retrouver le plaisir, bien sûr, dans le pari. Victor, on a fini ? On est bon ? On est bon, bravo, c'était l'épisode 643, je suis 10 ans en arrière, 643 du podcast John Actu. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et que j'en sache. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes aussi de podcast. N'hésitez pas à chaque fois à laisser des commentaires positifs et des étoiles au maximum. On est évidemment sur touchdownactu.com, TD Actu si vous voulez aller plus vite. Victor, merci.
Merci Raoul, merci à tous.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Demain, épisode draft, de quoi on va parler, Victor ?
Bien, demain, on va parler de tackle offensif. On a parlé de toutes ces équipes qui ont des besoins sur la ligne. On va parler de tackle et notamment d'un certain Olu Fashanu.
Olu Fashanu, retenez ce nom, il sera peut-être drafté en 43e position l'an prochain. Bien sûr, c'est un nom immanquable.
Il y a peu de chances qu'il sorte du top 10.
Eh bien, écoute, en tout cas, on te le souhaite. Merci à toutes et tous encore une fois. À très bientôt sur les antennes de Touchdown Actu. Ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.